Alors, bonjour à tous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 148 pour commencer notre temps ensemble ce matin. On va lire le psaume 148. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. L'Éternel, du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Ce passage, encore une fois, nous rappelle la grandeur de notre Dieu. Combien il est digne d'être adoré, combien il est digne de louange. Et une des raisons pour cela qu'on voit à travers le passage et que Dieu demande même la louange de toute sa création, même des êtres ou des objets qui semblent inanimés, comme le soleil et la lune et les étoiles, Dieu demande la louange de leur part. Et c'est intéressant lorsqu'on se met à réfléchir à ça. Comment est-ce que ces objets-là peuvent louer Dieu s'ils sont inanimés? Mais je pense qu'on a une réponse lorsqu'on voit que c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui est le créateur. Et pour sa gloire, ces objets-là ont été créés. Et même, au début, on commence avec les objets inanimés, les choses qui sont au ciel, et plus le passage avance, on en arrive à l'être humain. Les jeunes hommes, les jeunes filles, les princes, les rois, tous doivent reconnaître que Dieu est le roi, le souverain sur toutes choses, et que tous puissent l'adorer et le louer. Et si on vient ensemble ce matin, encore une fois, c'est pour reconnaître la grandeur de notre Dieu, reconnaître sa majesté, reconnaître comment il est digne de louange. Et on veut plonger nos regards dans sa parole et on va voir un peu le récit de la création. C'est pour ça que j'ai choisi ce psaume-là, pour réaliser combien Dieu est grand et combien nous lui devons toute l'adoration. Et ce matin, vous voyez les ballons à côté de moi, on a célébré hier soir le 60e anniversaire de l'Église de l'Espoir. C'est un bon moment qu'on a pu se rappeler les bénédictions de Dieu à travers toute l'histoire de l'Église. Et puis, une des choses que je retiens de cette soirée-là, c'est combien les pasteurs qui ont précédé, M. Beau, le fondateur, ceux qui ont suivi, y avaient à cœur d'apporter l'Évangile et que la parole de Dieu soit enseignée. Et comme pour moi hier, c'est comme ça traçait une ligne dans l'histoire. On a célébré le 60e. Et comment on veut commencer les prochaines années? Ce matin, on commence en ouvrant les Écritures, puis en prêchant la parole de Dieu, puis en annonçant l'Évangile. C'est ça qu'on veut. Puis on veut rendre gloire à Dieu pour ça. Sans plus tarder, on va se courber dans un mot de prière, puis on va plonger dans notre leçon. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre toute la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, de toute ta création. Et Seigneur, tu nous as créés. Nous sommes ton ouvrage. Et non seulement tu nous as créés, tu nous as formés, tu as formé notre corps, mais tu as formé tu nous as formés depuis le sein de notre mère, mais tu nous as aussi créés à nouveau en Jésus-Christ, ton Fils. Pour qu'on puisse, nous qui étions des pécheurs, des ennemis, des gens qui marchaient loin de toi, que nous puissions se tourner vers toi, reconnaître ta souveraineté et combien en Jésus-Christ tu nous as aimés et que le pardon se trouve en toi. Tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es celui qui mérite toute la gloire et l'adoration. Et ce matin, on veut se présenter devant toi et te louer pour tout ce que tu as fait à travers l'histoire de cette Église jusqu'à maintenant. Merci pour ces hommes et leurs épouses et tous ceux qui ont passé à travers l'Église, qui ont été membres ici, qui ont été membres sur le conseil et qui ont eu à cœur de prêcher ta parole et ton Évangile. Merci pour le ministère et tous ceux qui sont venus à toi à travers ce ministère-là. Et Seigneur, ce matin, on veut s'engager à nouveau en regardant vers ces modèles qui nous ont précédés, en fixant les regards sur toi, puis en voulant, Seigneur, continuer cette œuvre que tu nous appelles à faire. Et ce matin, Seigneur, que notre temps ensemble, dans ta parole, puisse nous guider, nous éclairer. Et équipe-nous, Seigneur, pour qu'on puisse mieux te connaître, mieux te comprendre ta parole et à travers cela, mieux te connaître et s'approcher de toi. Que ce ne soit pas seulement des connaissances intellectuelles, Seigneur, mais que ça puisse les vérités de ta parole puissent descendre tout au fond de nos cœurs pour que de tous nos cœurs, on puisse te célébrer, t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Bénis notre temps ensemble et c'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, on s'est laissé un peu au milieu de la leçon 2. On a eu l'occasion de commencer, de voir un peu ensemble l'ensemble du message de la Bible. Ce qu'on essaie de faire en termes théologiques, c'est une théologie biblique, d'essayer de comprendre l'ensemble de la révélation de Dieu pour en arriver, après ça, lorsqu'on arrive dans les parties, être en mesure de mieux les interpréter parce qu'ils se connectent à l'ensemble. Ils contribuent au message de l'ensemble. Et on a vu qu'on a établi ou plutôt proposé que le message de l'ensemble de l'Écriture, c'était l'établissement du royaume de Dieu, des cieux vers la terre, de la création, la nouvelle création, par le plan rédempteur accompli en Jésus-Christ, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et ensuite de ça, on a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle plus particulièrement, révèle son plan rédempteur, commence à révéler son plan rédempteur, plus particulièrement en établissant une alliance avec Israël. Et à travers cette alliance-là, à travers cette relation qu'il établit avec Israël, Dieu commence à révéler tranquillement son plan rédempteur qui pointe ultimement vers la personne de Jésus-Christ et vers le salut que Dieu a prévu dans l'accomplissement de ce que Jésus a fait à la croix, par sa résurrection, par son ascension et sa session à la droite de Dieu. Et puis, on a survolé un peu l'Ancien Testament, on a parlé des quatre grandes sections, et puis qu'on trouve le Pentateuque, les cinq premiers livres, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques, comme on le voit dans notre canon des Écritures, dans les versions du canon qu'on a. Et puis, il y a eu des questions concernant un peu comment ça s'est formé, ça, le canon des Écritures, et en relation avec le canon juif qu'on appelle la Tanakh, j'avais sauté cette leçon-là, puis là, à cause du temps, il nous manque un peu de temps de cette session, il aurait peut-être fallu un dimanche de plus pour pouvoir le faire, mais je vous ai fourni ce matin, les notes sont en arrière, je les ai envoyées par courriel, un peu un survol. C'est pas dans les détails. C'est sûr que si vous voulez comprendre davantage, peut-être je pourrais vous suggérer des lectures qui vont un peu plus loin sur la critique textuelle et toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous le partager. Mais cette leçon-là, là, en quelques pages, vous donne une idée un peu de comment ça s'est formé et puis comment on est arrivé à voir les Écritures de l'Ancien Testament avec nous. Et là, on était rendu à cette étape dans notre introduction, si je peux dire, à l'Ancien Testament, c'est des règles d'interprétation. Comment on doit interpréter l'Ancien Testament? De quelle façon, lorsque j'ouvre les Écritures, c'est quoi les outils ou la façon dont je dois aborder ce texte-là? Et puis, c'est sûr que la raison pour laquelle j'apporte ça et l'importance de discuter de ce sujet-là, c'est que à travers l'histoire de l'Église, il y a eu, à travers l'histoire tout court, des courants philosophiques qui ont émergé, entre autres avec le siècle des Lumières, au 18e siècle, des hommes qui ont vécu avant comme Descartes, etc. Après ça, il y a eu Kant, John Locke, David Hume, tous des philosophes qui, tranquillement, ont amené la pensée plutôt que de dire, de présupposer qu'il y a un Dieu qui existe et qu'on doit se soumettre à lui. On commençait à remettre en question l'existence de Dieu. Ça existait déjà de façon embryonnaire, probablement dans quelques endroits sur la Terre, mais dans le monde occidental, on se remet en question. Et puis, on commence à élever la raison de l'homme au-dessus des Écritures et de la pensée d'un Dieu qui existe. Et la raison commence à juger et dire... Lorsque je lis les Écritures, il me semble que ça ne fait pas du sens scientifiquement, ou selon ma raison, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, ça prend à la légère, cette partie-là des Écritures. Jésus marche sur l'eau, il transforme l'eau en vin. On le sait que ça ne se peut pas qu'un homme qui vient sur la terre puisse faire ça. Scientifiquement, on peut pas prouver ça. Et Jésus, lorsque, évidemment, on écarte l'idée qu'il pouvait être le Fils de Dieu, on remet en question tout ce qu'il a fait, finalement, puis tout ce qu'il a accompli. Et puis, tranquillement, pour employer l'image d'un pasteur, on s'est mis à déchirer la Bible. Il dit, ça, c'est pas bon, puis ça, c'est pas bon, puis on va essayer de voir à travers tout ça, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est scientifique. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a élevé la raison au-dessus de la révélation. Et là, ce qu'on veut faire, c'est dire, si je veux bien comprendre, je dois pas élever ma raison. Oui, on utilise notre raison pour essayer de comprendre les Écritures. On n'a pas le choix. Dieu nous a donné une intelligence, puis il nous a demandé de l'aimer avec notre intelligence aussi. Et on doit s'approcher de la parole de Dieu avec notre intelligence, mais en reconnaissant que Dieu est là et qu'on est soumis à lui et à sa révélation. Alors, comment? Maintenant, j'interprète les Écritures avec cette présupposition-là que je n'ai pas le choix d'aborder, de dire « Dieu existe et je dois me soumettre à lui ». Comment on interprète les Écritures? Et si je pose la question, on va se donner certaines règles. Mais c'est qui a inventé ces règles-là pour interpréter l'Ancien Testament? Qui est venu à établir ça? Est-ce que c'est les hommes? Comment ça en est arrivé? Si je vous lance la question, peut-être pour discuter un petit peu, d'où, d'après vous, ça vient les règles pour interpréter l'Ancien Testament? Oui, Camille. Oui, OK. Oui. Oui. Oui, OK. Donc, je répète ta réponse, c'est que Camille dit, à la lumière de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, que par exemple, Matthieu va mentionner il va faire référence à l'Ancien Testament et voici l'accomplissement de tel texte, où Paul va employer l'Ancien Testament aussi pour expliquer certaines choses. Et donc, grosso modo, on voit déjà des règles un peu apparaître à travers le texte du Nouveau Testament. Hein, c'est ça. OK. D'autres idées? Oui, Mme Roy. OK. Oui. OK. Donc, Mme Roy dit que la Bible s'interprète par elle-même. Donc, on peut dire qu'on regarde les passages, puis des fois, on peut comprendre un passage mieux à la lumière d'un autre. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est dit de façon qui... Oups, il me manque peut-être des outils pour comprendre, des éléments pour comprendre l'idée qui est véhiculée. Bien, je peux aller voir ailleurs dans les Écritures si le même thème ou le même sujet n'est pas abordé d'une autre façon, d'un autre angle, d'une autre perspective. Ça me donne des outils pour éclairer ce passage-là. Excellent. On interprète les Écritures avec les Écritures. Les apôtres, entre autres, les auteurs du Nouveau Testament nous donnent des idées. Oui, Carmen.
Selon ma croyance,
OK. Oui, OK. Oui. OK. Les Écritures, c'est ça, oui. Dans le sens, Carmen nous rappelle que, dans le fond, les Écritures qu'on a, c'est à certains moments, Dieu nous l'a demandé, hein, au prophète, de dire « Écris-le, écris-le ». Puis, dans un sens, on reconnaît que ça vient de Dieu de cette façon-là. Oui, Monsieur Lapointe. Oui.
Mais en plus de ça, il faut se rappeler que Jésus lui-même a cité plusieurs passages des Écritures.
Mm-hmm. Oui.
Mais quant à la tradition orale, bien, on se rappelle que ça se passait de génération en génération.
Oui.
D'ailleurs, c'est dans Josué qui dit « Tu l'enseigneras à tes enfants, puis eux qui l'enseigneront à leurs enfants aussi. »
Oui.
Donc, il y a beaucoup de cette sagesse-là, je pense, qui a été traduite de cette façon-là.
Oui, OK. Fait qu'une sagesse qui s'est transmise d'une génération à l'autre sur la façon de comprendre, dans le fond, le message qui finalement nous est parvenu, nous, dans les Écritures. Puis, vous mentionniez aussi que Jésus a utilisé l'Ancien Testament. Donc, Jésus lui-même nous aide à interpréter l'Ancien Testament. Oui, monsieur Châté, puis après ça, David, puis après ça, on va aller de l'avant. C'est bon, on a de l'interaction, c'est bon.
C'est très court.
Oui.
Que les normes d'interprétation biblique, la herméneutique, sont très ressemblables à l'herméneutique juridique. Lorsqu'un juriste, un juge, un avocat commence à essayer de trouver le sens de la loi, va utiliser le même principe qu'ici à l'Église, on nous enseigne, c'est-à-dire la loi. On doit chercher dans la loi, et seulement dans la loi, ou dans la jurisprudence l'essence d'un texte.
Oui, OK. Fait que dans un sens, on regarde le texte d'une manière littérale aussi. T'sais. On n'apporte pas un paquet d'idées dans le texte. On essaie de le prendre de façon littérale, puis comment comme on disait, là, interpréter les Écritures avec les Écritures, les différents textes de loi, bien, de cette façon-là, on peut arriver à interpréter d'une manière littérale, mais aussi mieux comprendre certains passages. On interprète le texte avec les textes qu'on a. Oui, David?
Bien, en fait, c'est que l'Écriture en tant que telle, on reconnaît que c'est l'autorité ultime en matière de foi. Mm-hmm. Et donc, dans ces termes, en étant une autorité ultime, on ne peut pas faire appel à des sources extérieures pour interpréter ce que la Bible dit. Donc, il faut absolument que la Bible soit capable de s'interpréter elle-même comme autorité ultime.
Okay.
On voit les références que Jésus fait de l'Ancien Testament, comme on a déjà dit.
Oui.
Puis surtout quand la Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, l'Écriture est inspirée du même Dieu.
Oui. Fait que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Maintenant, là, tu disais... on ne va pas aller chercher d'autres sources extérieures pour essayer d'interpréter les Écritures. Je nuancerais peut-être ça un petit peu, d'une façon que si les sources extérieures viennent à contredire ce que la Bible dit, puis comme remettre en question même la manière d'interpréter le texte, bon, on peut comprendre que ce n'est pas nécessairement utile, mais des fois, ça peut nous aider. Je pense au niveau historique parfois. Des fois, il y a des éléments dans l'histoire, j'appelle ça un peu comme ça, la grâce commune que Dieu donne, de l'intelligence à des gens de chercher des choses dans l'histoire, des fois peuvent nous aider à mieux éclairer le texte des Écritures, mais jamais sans le contredire et sans renier son autorité. Fait que c'est bon? C'est bon. Fait que, on interprète le texte par lui-même, mais des fois, les choses extérieures, la révélation générale, la grâce commune, l'intelligence, on voit que Dieu donne l'intelligence aux hommes, bien, des fois, ça peut nous aider à le comprendre, mais ça ne viendra jamais prendre la place de l'autorité des Écritures. Fait que, non, c'est excellent. On a des bonnes réflexions. Puis je pense que vous avez, dans l'ensemble, en général, pas mal raison. C'est ça. C'est, qui nous a donné les règles? Bien, je pense que c'est Jésus puis les apôtres à travers le Nouveau Testament. Premièrement, si je veux comprendre comment j'interprète l'Ancien Testament, bien, je regarde comment Jésus et les apôtres, les Écritures, l'inspiration de Dieu par l'Esprit, bien, nous éclaire sur ce que l'Ancien Testament enseigne. Mais j'aimerais vous donner, peut-être résumer, pour un peu ordonner ça un peu dans notre pensée, quatre règles pour interpréter l'Ancien Testament. Et je les ai mis dans un certain ordre. Hier, j'étais au colloque sur les Écritures à Sembec, puis on avait toute une discussion sur justement cette question-là, l'interprétation de l'ensemble des Écritures, comment ça se connecte. Je les ai mis dans un certain ordre, puis peut-être que j'inverserai peut-être certaines choses dans ma présentation, mais je pense que l'essentiel de ce que je crois est là, puis est présent là. J'ai mis comme première règle, c'est qu'on devrait, on doit interpréter l'Ancien Testament de façon théologique. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de façon théologique. C'est, premièrement, c'est d'interpréter l'Ancien Testament, ça veut dire, de façon théologique, ça veut dire qu'on doit considérer l'ensemble de la révélation des Écritures lorsqu'on interprète l'Ancien Testament. Donc, c'est ce qu'on appelle la théologie biblique. C'est, je regarde l'ensemble de la révélation de Dieu, de la révélation du plan rédempteur, de toute cette histoire-là que Dieu révèle, et à travers l'ensemble, j'en retire des vérités. Et ces vérités-là, qui sont un résumé de l'ensemble, vont me guider aussi quand je vais approcher le texte de l'Ancien Testament. Et donc, je pourrais donner des exemples. Je n'aurai pas le temps de donner des exemples très précis, là, ben, beaucoup d'exemples, mais par exemple, lorsque Dieu dit, puis on voit dans les psaumes, à l'ensemble des Écritures, on en arrive à une conclusion théologique qui va dire que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, même le futur, même les détails du futur qui va arriver. Et là, il y a certains textes de l'Ancien Testament. On va donner l'exemple, par exemple, de lorsque Abraham a amené, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et puis là, Abraham amène Isaac sur l'autel, et puis là, finalement, un ange l'arrête. Et puis, Dieu va dire quelque chose. Dieu va dire, « Maintenant, je sais que tu m'honores. Maintenant, je sais que ton cœur m'appartient. » Je paraphrase un peu, là. Je n'ai pas le texte par cœur dans ma tête. Mais maintenant, je sais que ton cœur. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne le savait pas avant? Mais non, ça ne marche pas avec l'ensemble des Écritures. Ça ne fonctionne pas avec ma théologie. C'est clair que dans l'ensemble des Écritures, Dieu révèle qui il est, puis on sait qu'il connaît tout, même les éléments, les détails du futur qui vont arriver, même son plan. Donc, on ne peut pas dire, mais Dieu ne le savait pas, puis il l'a appris à ce moment-là. Ça ne marche pas, ce n'est pas une bonne interprétation. Fait qu'il faut aller plus loin pour essayer de comprendre pourquoi maintenant Dieu dit, « Maintenant, je le sais. » Mais on n'ira pas tout dans ça ce matin, mais c'est juste pour vous donner un exemple, de dire, d'avoir une bonne pensée théologique de l'ensemble des Écritures puis des vérités qu'on voit dans les Écritures m'aide quand j'arrive à interpréter un texte. Il faut que je l'interprète à la lumière de ça. Je ne peux pas dire le contraire de ce que l'ensemble des Écritures me disent. Donc, c'est important de comprendre l'ensemble des Écritures. Et il y a deux éléments centraux qu'on a vus jusqu'à maintenant dans le message de Dieu et qu'on doit garder en tête. On a le privilège de pouvoir comprendre davantage ce que Dieu a révélé les choses à qui ont été révélées. Par exemple, nous, on a l'ensemble. On le sait que Dieu a un plan parfait. On sait que Dieu va accomplir son plan en Jésus-Christ. Nous, on est après ça. On est après l'annonce prophétique. On est après l'accomplissement. Et lorsque je lis le passage, par exemple, des passages dans Ésaïe, oui, on va venir là, on veut le comprendre dans son contexte historique, etc. Mais ça a été écrit à une époque. Et puis, le reste des Écritures me révèle des choses sur ce que ce texte-là me dit et je dois en tenir compte pour bien l'interpréter. Fait que ça se peut qu'il y ait des éléments qui étaient obscurs, même pour les prophètes qui annonçaient. Le Seigneur nous le dit dans 2 Pierre, je crois. Il dit il y avait les prophètes, ils ne saisissaient pas tout ce qu'ils étaient en train de dire. Ils annonçaient des choses que Il voyait juste comme une ombre de des choses qui s'en viennent. Mais nous, avec la révélation du Nouveau Testament, bien, on peut arriver puis dire, « Hey, ça, là, ça s'est accompli en Jésus. » Quand je lis l'Ésaïe 53, c'est pas juste comme, « C'est qui ce gars-là qui va venir, qui va souffrir, qui va être maltraité? » On parle du serviteur de Dieu. Mais nous, on le sait, c'est Jésus-Christ. Donc, on prend le texte dans son contexte pour le comprendre, mais après ça, on l'interprète de façon théologique à la lumière de l'ensemble des Écritures puis de la Révélation. Donc, ça, c'est une des premières règles. L'autre, qui va en lien avec ça, c'est qu'on doit interpréter l'Ancien Testament de façon christologique. Et ce que je veux dire par là, c'est que la venue, l'Ancien Testament préparait la venue de Christ dans le monde, et puis il y a eu un accomplissement, et dans un sens, il y a eu une alliance qui a été faite à Israël, mais c'était en vue de l'accomplissement en Jésus-Christ. Et lorsque je lis les Écritures, je dois le voir à la lumière d'une promesse d'un Messie qui va venir et l'interpréter à la lumière de ce qui s'est accompli. J'ai deux passages ici dans Galates 3, 23 et 24. Paul dit, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Donc, la seule idée que je veux retirer de ce passage-là, c'est la loi était là pour nous amener ou nous conduire vers Christ, pour nous amener à Christ, pour nous révéler davantage qu'est-ce qui allait s'accomplir en Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la loi, on parle de l'ensemble de l'Écriture dans l'Ancien Testament aussi, on le voit que Jésus même, dans Luc 24, a dit lui-même, il a interprété lui-même l'Ancien Testament de façon christologique. Alors, on le voit dans le verset 25 à 27 et 44 de Luc 24. « Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Jésus interprète l'Ancien Testament à la lumière de ce qu'il est venu accomplir. Puis il leur dit, verset 44, « C'est là que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, on a parlé, ça couvre l'Ancien Testament au complet. Qu'est-ce que ça dit? Jésus est en train de dire, ça parle de moi. Et voici comment on l'interprète. Vous pouvez l'interpréter maintenant. Ça a été annoncé d'avance, puis je l'ai accompli. Regardez comment on comprend tout ce qui s'est dit avant, puis tout ce que les prophètes ont annoncé. Donc, un élément, c'est de garder en tête que l'Ancien Testament nous révèle des choses, pas toujours toutes claires, mais qui sont accomplies en Jésus-Christ et que maintenant, on peut mieux comprendre. Le troisième point, c'est qu'on doit interpréter l'Ancien Testament de façon typologique. Et typologique, ça vient du mot « type ». Et le mot « type »,« typos » en grec, veut dire « image ». C'est comme si dans l'Ancien Testament, j'ai des images de choses qui vont arriver plus tard. Et souvent, les types dans les Écritures de l'Ancien Testament, c'est des choses qui représentent quelque chose de plus grand qui va venir encore. Et donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un type qu'on voit dans l'Ancien Testament. Un type, c'est le repos dans la terre promise. Puis Hébreux va nous l'Épître aux Hébreux, les chapitres 3 et 4 parlent de ça. Ils vont nous faire réaliser que le repos dans la terre promise pointait vers un repos encore plus grand et que c'est le repos spirituel en Jésus-Christ et qui n'est pas encore entièrement accompli, qui est accompli pour nous spirituellement, mais qui va venir encore plus grand au retour de Christ. Et donc, un type, ce que Dieu a fait à travers Israël, qu'il l'a amené dans une terre promise où il voulait les bénir lorsqu'ils marchaient avec lui, c'était juste une ombre, c'était juste une image de quelque chose de plus grand qui allait venir encore. Et à travers l'Ancien Testament, on a plusieurs éléments comme ça, qu'on appelle des types, des images qui nous pointent vers des réalités en Jésus-Christ. Tout le système sacrificiel est un type de Jésus-Christ. La sortie de l'Égypte et l'entrée dans la terre promise, une libération de l'esclavage du péché par Christ à la croix. Vous voyez tous les éléments, il y a plein d'éléments qui nous pointent vers Jésus-Christ et on doit l'interpréter de cette façon-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments d'image dans les Écritures. Vous pouvez noter Hébreux 8:5, Hébreux 10:1. Je n'aurai pas le temps d'aller les lire, mais c'est des éléments où on voit qu'il y avait une image de choses plus grandes qui s'en venaient. Et finalement, probablement cette règle-là, je l'aurais mis en premier. Mais c'est correct, j'y arrive. On doit interpréter l'Ancien Testament de façon historique et grammaticale. Et dans le fond, on peut dire grammatico-historique ou de façon littérale. Hier, Gilles Despins employait le terme littéral, grammatical, historique. L'idée là-dedans, c'est de dire, je dois chercher à comprendre ce que le texte dit dans les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Avant de connecter tout ça à une théologie de l'ensemble des Écritures, mais je vais essayer de comprendre ce que le texte dit lui-même dans son contexte. Et donc, on va chercher à mieux comprendre ce que le texte dit. Qu'est-ce qu'il disait aux personnes à cette époque-là et dans un contexte bien précis? Donc, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, ce que Camille disait, chaque mot, même dans l'original, parfois en grec, en hébreu, a son sens. Nous, j'ai même cité un verset ce matin, il y avait comme deux idées hier qui circulaient par rapport à ce verset-là, l'interprétation d'un des mots dans ces versets-là. Mais l'idée ici de grammatical historique, c'est vraiment de dire chaque mot dans le contexte historique, qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là? Et c'est l'idée aussi de dire qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer? C'est quoi l'intention de l'auteur derrière ce passage-là? Des fois, on fait des sauts trop rapides dans le temps, si je peux dire, dans notre interprétation. Puis c'est correct parce que je l'ai dit, on veut interpréter de façon théologique, mais je pense que premièrement, il faut faire l'exégèse du texte, essayer de le comprendre dans son contexte, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement aux personnes qui l'ont reçu. Et donc, lorsque j'étudie de façon historique, je vais essayer de comprendre les mots, qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce texte, dans ce contexte-là, et puis être informé aussi du contexte historique, comme on disait tout à l'heure, de l'histoire du peuple juif ou même l'histoire des Grecs et des Romains vont nous aider à comprendre un peu ça. Dans les dictionnaires de théologie, les dictionnaires grecs, entre autres, souvent, si je cherche un mot en grec dans un dictionnaire, il va un dictionnaire bien fourni, là, bien écrit, là, on en a des lexiques là, assez costauds. Je peux avoir des petits, là, on a tout ça, là, des petits dictionnaires que, oh, vite, on a trouvé, OK, c'est ça, ça veut dire. Mais il y en a qui vont aller plus loin puis qui vont dire, ce mot-là est employé dans Paul, dans tel passage, Jean l'utilise dans tel passage. Et même, ils vont aller à l'extérieur puis dire, dans les textes grecs séculiers, voici comment ce mot-là est employé. Puis, c'est sûr, c'est le langage de l'époque. Ça nous aide à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que Paul a voulu dire à travers ça. Donc, c'est important. Puis je pense que avant même, puis c'est pour ça que je dis, je l'aurais probablement mis cette façon d'interpréter en premier, parce que je pense qu'il faut comprendre le texte, premièrement dans son contexte, qu'est-ce que les mots veulent dire, la structure littéraire, où il se trouve dans le contexte littéraire, et puis après ça, on peut faire des connexions théologiques, christologiques, typologiques qui nous aident à comprendre. Donc, c'était un peu technique, mais je pense que c'est des outils quand même de base qui nous aident à approcher le texte de l'Ancien Testament et qu'on peut mieux comprendre. Donc, ceci dit, On va avancer avec la leçon 3. Il ne reste pas tant de temps que ça, mais je veux quand même avancer pour ne pas trop prendre de retard. Et puis, on va commencer maintenant le survol, à proprement dit, de chacun des livres de l'Ancien Testament. Et on va commencer avec la Genèse, évidemment. Donc, vous avez dans vos notes, vous avez vos notes et on va faire ce qu'on appelle une introduction. Ce que je compte faire pour chacun des livres, c'est donner une introduction, donner l'idée de l'ensemble du livre. C'est quoi le message de ce livre-là? C'était quoi l'intention de l'auteur en écrivant ce livre-là? Avoir une idée du thème et puis ensuite de ça, peut-être présenter quelques éléments au niveau de l'auteur, à quelle époque le livre a été écrit et puis ensuite de ça, faire un survol, des passages principaux, de se donner une idée de la structure du livre pour mieux le comprendre. Donc, on commence avec la Genèse. Le mot Genèse, que nous, on utilise pour dire, comme titre du livre, c'est le mot, ça vient du mot grec « genesis », qui signifie « commencement ». OK? Et puis, dans le fond, notre Genèse, le titre Genèse, c'est une translittération en français du mot grec, que dans la version grecque de l'Ancien Testament, le premier mot du livre, c'est « genesis », « commencement ». Et donc, on a, en français, fait une translittération pour appeler le livre « la Genèse ». Et ça vient carrément de l'original, du premier mot, « au commencement », parce que c'est ce qu'on voit en français. Et donc, le livre de la Genèse nous parle du commencement de toute chose. Je suggère comme thème que l'idée globale qu'on retrouve dans la Genèse, c'est l'origine de la création de la race humaine, des différentes nations du monde et plus particulièrement du peuple de Dieu avec qui il fait alliance. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Genèse? Le commencement de l'humanité. Et puis, le déluge, les fils de Noé se répandent sur la terre, avec Babel, il y a des langues, et puis il va y avoir la formation des nations. Et puis à travers ces nations-là, Dieu va choisir un peuple en particulier à travers Abraham, avec qui il fait alliance, et avec qui le reste de l'Ancien Testament, dans le fond, Dieu se révèle à travers ce peuple-là. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la Genèse, c'est l'origine de la création, de la race humaine, les différentes nations du monde et plus particulièrement du peuple de Dieu avec qui il fait alliance. Je n'irai pas, malheureusement, par manque de temps, dans tous les détails au niveau apologétique pour défendre le fait que Moïse en est l'auteur. On croit que Moïse en est l'auteur, puis je vais te donner quelques raisons. On le voit tout au long du Pentateuque, des cinq livres, on voit que Dieu va demander à Moïse de mettre ça par écrit dans un livre. On voit même dans le reste de l'Ancien Testament qu'il y avait un livre de la loi qui existait. Déjà dans Josué 1, on voit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, le livre de la loi, le Pentateuque, était écrit après la sortie du désert, avant d'entrer dans la terre promise. La loi était déjà là. Moïse avait écrit une loi auquel le peuple devait s'attacher. Et puis, on voit dans le Nouveau Testament que, on l'a vu tout à l'heure, Jésus dit, c'est écrit dans Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça parle de moi dans Moïse. Mais Moïse, c'est quoi? Bien, c'est le Pentateuque. Et il y a certaines personnes qui vont remettre ça en question, comme je disais, à travers toute la critique historique. Qui se sont mis à remettre en question est-ce que Moïse est vraiment l'auteur, etc. Je n'irai pas dans toutes les évidences de ça, mais je pense que si on interprète les Écritures avec les Écritures, bien, les Écritures nous confirment que Moïse est l'auteur. Et on doit prendre ça comme la vérité, si Jésus l'a dit. Oui, M. Lapointe. Oui. 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 Évidemment, dans l'ensemble, on voit que c'est Moïse, mais ça arrive qu'il y a probablement plus tard, à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a comme quelqu'un qui a rassemblé les écrits de Moïse et puis qui a mis ça dans un livre et puis qui a ajouté une note d'éditeur, si je pourrais dire, à la fin pour dire, ben voici, Moïse est décédé à tel endroit, puis voici comment ça s'est passé, puis il va fermer le livre de cette façon-là. Mais c'est dans un sens, le contenu vient de Moïse, et puis il y a peut-être un éditeur qui a pris ça puis qui a rajouté un élément à la fin juste pour comme clore l'époque de Moïse. Puis ça, je serais prêt à dire justement, là, tu sais, c'est pas Moïse qui a écrit cette section-là à la fin, mais dans l'ensemble, on peut dire que Moïse est l'auteur du Pentateuque. Puis entre autres, pour une des raisons pour ça, c'est que le reste de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réfèrent à ce livre-là, au Pentateuque, comme Moïse étant l'auteur. Et puis, il y a des éléments aussi à l'intérieur du texte qui nous permettent de dire, ah, il y a une culture égyptienne, assez, une connaissance de la culture égyptienne assez prononcée pour dire tous ces détails-là. Il y a d'autres éléments qui nous aident à voir que ça fait, il y a du sens dans le fait qu'on attribue ce livre-là à Moïse. Donc, comme je le disais, le livre a été écrit fort probablement entre 1446, là, on va commencer à mettre des dates, là, 1446 et 1406 avant Jésus-Christ, et c'est la période de la sortie d'Égypte. Évidemment, on est le mont Sinaï, etc. Le peuple erre dans le désert pendant 40 ans, donc à peu près entre 1446 et 1406 avant Jésus. Dans le fond, Moïse aurait écrit ce livre-là avant la conquête de la Terre promise, qui commence en 1406. Donc, on place ça à cet endroit-là. Dans la structure du livre, ce qu'on voit, c'est cinq grands éléments. Évidemment, Genèse 1 à 11 forme vraiment une introduction aux origines. Genèse 1 à 11 couvre la création jusqu'à la tour de Babel. Et on voit la création, la chute et ses conséquences, le déluge, un nouveau commencement après le déluge, et puis la tour de Babel, qui nous rappelle que l'homme cherche à prendre la place de Dieu, qu'il veut avoir le contrôle sur sa propre vie. Et donc, on voit cette origine-là. Et puis, ensuite de ça, on voit l'alliance qui commence. Et je pourrais dire cette grande section de Genèse 12 à 50, c'est l'alliance, mais plus spécifiquement avec Abraham, dans les chapitres 12 à 25, Isaac, dans les chapitres 25 à 26, Jacob, les chapitres 27 à 37, et puis Joseph, les chapitres 37 à 50. Isaac, Jacob et Joseph étant les descendants d'Abraham. Et donc, on voit ces grandes sections-là et on voit le livre de la Genèse comme l'histoire, dans un sens, d'Israël, des origines, jusqu'à ce que le peuple s'établisse en Égypte. Dans le fond, la famille de Jacob s'établit en Égypte. Si on commence un petit peu avec les éléments de principaux qu'on voit dans la Genèse, évidemment, je pense que s'il y a des chapitres les plus importants dans les Écritures pour nous aider à comprendre le reste des Écritures, c'est Genèse 1 et 2 avec la création et Genèse 3 avec le récit de la chute. Si je n'ai pas ces deux éléments-là, qui sont fondateurs pour comprendre l'humanité, le peuple d'Israël, le péché dans l'humanité et l'œuvre que Christ va venir accomplir. Si je n'ai pas Genèse 3, Christ, pourquoi il vient? Si j'ai avec Genèse 1 et 2, évidemment, j'arrive à comprendre que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses et à lui, je dois révérence. Et quand je désobéis à sa loi, bien, je tombe en séparé de lui et je deviens un ennemi de lui. Donc, là, il y a une nécessité d'un plan rédempteur qui va commencer ensuite et qui va être révélé par la suite. Donc, Genèse 1 et 2, très important. Et je vais prendre un certain temps pour parler un peu du récit de la création. Comme je dis, on fait un survol. Je ne vais pas toujours aller dans les détails, mais je vais mentionner des points importants pour nous aider à interpréter le reste après. Et puis, ça commence avec Genèse 1 et 2. Genèse 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et donc, déjà avec ces mots, Je vois au commencement Dieu. Donc Dieu était déjà là au commencement. Et Dieu est éternel. Dieu, lui, n'a pas de commencement. Et le reste des Écritures va nous amener à comprendre ça. Dans le psaume 90, verset 2. « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, avant même que tu crées le monde, avant même que Dieu crée et décide de dire, de créer, je vais créer un ciel et une terre, les cieux et une terre, Dieu était déjà là. Dieu était présent parce que Dieu est éternel. Et on le voit déjà dans le récit de la création, si on s'arrête au commencement, Dieu. Okay, il y a eu un commencement, Dieu a créé, mais Dieu était déjà là. Dieu était déjà présent et Dieu est éternel. Dans Psaume 93, 2, ton trône est établi dès les temps anciens et tu existes de toute éternité. Le trône de Dieu. Non seulement Dieu existait, mais Dieu existe comme le roi, le souverain de toutes choses avant même que la création soit faite. Dieu est déjà présent. Et ça, ça nous place déjà dans un contexte pour comprendre les Écritures. Dieu est Dieu, il est souverain, il a contrôle de toutes choses, il existe depuis toute éternité. Et ce qui va suivre ensuite, ceux qui vont suivre ensuite et la création qui va suivre ensuite est soumise à ce Dieu-là dont le trône est établi depuis les temps anciens. Et je pense que déjà, ça nous donne une idée pour nous aider à comprendre le reste. Dans Dieu, dans le fond, Dieu a tout créé. On voit dans les chapitres 1, les versets 3 à 25, la création des cieux et de la terre. On voit que Dieu a tout créé, a créé toutes choses par sa parole. Plusieurs versets dans le chapitre 1, versets 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. Comment les choses sont créées? Dieu dit. Et quand Dieu dit, la chose arrive. Il a le contrôle. Il n'a même pas besoin de matière, on va le voir. Il a le contrôle surtout par sa parole. Il peut créer toute chose. Il n'y a pas besoin de matière existante qui est là pour former quoi que ce soit. Dieu dit et la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, la chose arrive. Parce que Dieu est souverain, il a contrôle sur toute chose. Dieu a créé toute chose à partir de rien. Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce qu'on voit, moi, les arbres, toute la nature autour de moi, ça n'a pas été fait de choses visibles. Et là, si on remet ça en perspective avec toutes les philosophies qui existaient dans le monde grec et tout ça, que même des chrétiens ont... dans l'histoire de l'Église, ont emprunté de ces idées-là que le monde matériel vient d'un Dieu, un second Dieu qui était méchant, et puis l'âme vient d'un Dieu qui est bon. Et là, on commence à faire une dualité, une dichotomie entre l'âme et la matière. Toutes ces choses-là, ça ne fonctionne pas avec ce que les Écritures nous révèlent. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait même pas les âmes des êtres humains. Il n'y avait même pas les anges qui existaient parce qu'il n'y avait rien. Toute chose a été créée par lui et par sa parole à partir de rien. Et ce que ça nous montre, c'est la souveraineté, la majesté et la toute-puissance de notre Dieu. On voit dans les versets 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, Dieu vit, il a vu ce qu'il a vu, c'était bon. Il a vu que ce qu'il avait créé était bon. Et ce que Dieu a créé, toute chose que Dieu a créée est bonne. Et comme je le disais, on ne peut pas dire que la matière, c'est mauvais, que mon corps est mauvais. On peut pas, parce que Dieu m'a créé comme ça. Oui, après ça, avec la chute. Bon, là, j'ai un corps avec lequel j'expérimente les effets du péché. Et puis là, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Paul, il va espérer comme la délivrance de sa chair parce que ça l'amène à pécher, ça l'amène à toutes sortes de choses. Mais au commencement, tout était bon. Même le corps, toute chose était bonne. Et donc, on voit à travers ça que Dieu est souverain. Dieu fait toutes choses bonnes. Crée toute chose à partir de rien. Et puis, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec le temps qui avance, on va poursuivre avec la création de l'homme et de la femme. Ce ne sera pas dimanche prochain, ça va être dimanche dans deux semaines. Je vous annonce, la semaine prochaine, on prend une pause des cours bibliques en raison de l'action de grâce. Et puis, donc, on va se revoir dans deux semaines et on va reprendre à partir de la création de l'homme et de la femme des éléments super importants à mentionner, là encore, pour nous aider à comprendre le reste des Écritures. Mais en terminant, je pense que si on veut juste faire un résumé, les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes à la lumière de toute la révélation, à la lumière de ce que Christ a accompli, et puis on doit les interpréter à la lumière de toutes les Écritures. Et ce que Dieu nous montre dès le commencement, c'est qu'il est Dieu, il est souverain, puis on lui doit toute l'honneur et la gloire. Puis j'espère que ce bref survol, déjà, on peut partir avec cette idée-là. Seigneur, tu m'as créé, puis on a vu dans le psaume 148 au début, tu m'as créé pour que je te loue, pour que je te glorifie, puis avec un désir renouvelé de « Seigneur, je veux servir à ta gloire. En Jésus-Christ, maintenant, c'est possible. » Et on veut le louer, le glorifier. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour le privilège qu'on a d'étudier ta parole. Il y a tellement de choses qu'on voudrait dire. C'est, ta parole est riche. Mais Seigneur, on veut te remercier de t'être révélé à nous, de t'être révélé à nous dans la parole qui est écrite, mais aussi dans la parole de Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Et merci parce qu'à travers cette parole, Seigneur, on peut te connaître, toi le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus-Christ, et ainsi avoir la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à réaliser que tu es Dieu, que tu es majestueux, que tu es grand, souverain. Aide-nous, Seigneur, dans nos moments plus difficiles, dans nos moments de souffrance, de ne pas oublier ta souveraineté dans nos vies, que tu es présent et que toute chose concourt à notre bien, même si des fois on ne comprend pas toujours ce que tu permets. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi, à trouver refuge auprès de toi, puis à vivre pour toi, t'adorer comme tu en es digne. Seigneur, conduis le reste de cette matinée, la célébration, qu'on puisse, cette Église, te louer d'un seul cœur, un cœur renouvelé en toi par Jésus-Christ et te donner toute la gloire dont tu es digne. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.